Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop.
Ouais. T'as pas craqué, quoi, comme un junior.
Je n'ai pas peur de ce bide, parce que je sais que ça va être un bide.
Les grandes gueules du sport.
Eh bien, c'est le second. C'est le. J'allais dire une bêtise.
Gna gna gna, on s'en fout.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Vous avez certainement déjà identifié les GG du matin. On est très heureux évidemment de vous retrouver pour un nouveau week-end. On a beaucoup de choses à vous raconter. Souvent, on peut se dire, oui, il n'y a plus de Ligue 1, il n'y a plus beaucoup de foot, quoique il y a toujours la Coupe du Monde des clubs qui traînent par là. Mais rassurez-vous, il se passe beaucoup de choses en ce 21 juin 2025. Au sommaire aujourd'hui, le Stade Toulousain s'est qualifié pour sa troisième finale de suite du top 14. Les Toulousains ont souffert face à Bayonne, mais ils viseront le triplé dans une semaine face à l'UBB ou face à Toulon. Le Stade Toulousain est-il toujours aussi impressionnant? C'est la une des GG dans quelques instants. 10h, le cas Melvin Jaminet, suspendu 8 mois après des propos racistes, vous vous en souvenez, tenus il y a un an en marge d'une tournée du 15 de France. Cette semaine, Fabien Galthié, le sélectionneur, a laissé une porte entrouverte. Florian Grill, le président, lui tente plutôt de la refermer. Melvin Jaminet mérite-t-il une seconde chance en bleu? Ce sera le bras de fer. Et puis 11h, la nouvelle dimension prise par le Paris Saint-Germain actuellement aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs. Battre le PSG est devenu un événement pour tous ses adversaires, à l'image de Botafogo cette semaine. Paris est-il devenu une référence mondiale? Comme on y va, on se posera la question. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme la canicule, heureusement qu'il n'est pas là tous les week-ends, Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Toujours sympa d'être accueilli comme ça.
Ouais, bon matin. Je pensais que tu nous ferais un truc sur la fête de la musique. Voilà, je m'apprêtais à te répondre que moi je ne suis pas gratuit, contrairement à elle, mais
ça c'est voilà. Vrai. Bah, attends, j'ai les comptes, c'est sûr que t'es pas gratuit, mon cher Simon. Tu fais la fête de la musique?
Non, très peu.
Pourquoi?
Parce que UBB Rugby Club Toulonnais, d'une part, et d'autre part la foule, les gens, le monde.
T'es pour Toulon ce soir?
Évidemment,
toi le Bordelais évidemment, et on parlera demain hein, évidemment de cette deuxième demi-finale, et comme ça on connaîtra l'affiche de la grande finale du top 14 samedi prochain. Bienvenue, très heureux de te retrouver mon cher Simon. Une grande gueule qui, comme la canicule, on a du mal à jouer au foot avec, Pascal Duprat. Salut Pascal.
Salut Jean-Christophe, salut les amis, comment allez-vous?
Ça va très bien, et toi mon cher Pascal?
Ouais, je suis en pleine forme, hein. Franchement, du rugby, du foot, tout va bien, un peu de vélo,
oui.
Tout va bien, tout va bien.
Mais évidemment,
il y a des sports, hein.
Mais
il y a
bien
des sports,
sûr,
là,
on va se régaler aujourd'hui, il faut le dire à tous les auditeurs de nous écouter jusqu'à midi, parce que vous allez apprendre plein de choses dans la joie, la bonne humeur, comme d'habitude. Une grande gueule qui, contrairement à la canicule, on l'a rarement vue en deuxième semaine de Roland-Garros, Julien Beneteau. Salut Julien.
Salut. C'est tout le monde. Toujours la même. Hein.
Ouais. Ah non, ah là, c'est une variante.
Elle a un peu varié. Ça. Ah,
si c'était la même, j'aurais dit une grande gueule qui, comme la canicule, n'a jamais gagné Roland Garros. Voilà. Mais non, là c'est beaucoup plus subtil.
Ah, oui, bien sûr, c'est travaillé. C'est affûté, affiné.
On passe des heures, oui, sur ces présentations avec Maxime Abolin, mon producteur.
J'aurais pas dû m'ouvrir.
Bah, dis donc.
Comment ça va,
Julien? Pour en arriver là.
Pour en arriver là, c'est beau. Hein.
Ça va bien, merci, tout va bien.
Ouais. Ouais. T'as prévu quelque chose pour la fête de la musique?
Moi, j'aime pas la fête de la musique. J'ai prévu.
Qu'est-ce qu'il y a, les grincheux, là? Pourquoi
non,
pas
malheureusement, je ne verrai pas UBB RCT parce que nous fêtons les 130 ans du club, de mon club de tennis, le Tennis Club de Paris, toute l'après-midi et toute la soirée.
Ok.
Donc voilà.
Fête au TCP, donc.
Énorme fête au TCP. Au TCP. 320 personnes ce soir.
Pas mal, ça.
Incroyable.
Tu vas mettre le club formateur.
C'est pas mon club formateur. Non, je suis arrivé là, j'avais. Ça fait. Un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis licencié dans ce club et membre dans ce club.
Ok, tu vas mettre la queue de pile, haute forme.
Non, non, c'est cool. Décontracté chic, on n'est pas non plus. Voilà.
Ah ouais, ouais.
Tu vois.
Décontracté chic, c'est Rolex.
Non, pas du tout.
Quelle image vous avez.
Olivier, il connaît le TCP, il a été à un moment donné.
J'ai été membre voilà. Au TCP, tu salueras Jean-François.
Eh ben,
oui, tu salueras Jean-François, évidemment, tout le monde le connaît. Bon, bah, tu peux y aller en espadrille ou pas?
Oui.
Avec des mocassins.
Non, non, c'est pas drôle.
Parfait. Et puis une grande gueule qui, comme la canicule, il a choisi un sport qui nous plombe, Olivier Giraud. Salut Olivier.
Salut, salut, j'apprends ça. Ça te fait rire toi de l'autre côté.
Alors parfois c'est dommage, je devrais diffuser, un jour je vous diffuserai celles auxquelles j'ai pensé, mais je ne peux pas me permettre de les faire. Il y en a plein pour vous tous et tout ça, et je me suis dit non, j'ai peut-être un peu trop loin. Et donc évidemment on va rester tranquille. Pour une fois il n'a pas de présentation, pour une fois je vais le laisser tranquille, parce qu'il vient nous rendre visite en toute amitié. Il daigne nous rendre visite parce que c'est comme un invité aujourd'hui. Il est en direct de Lyon pour les demi-finales du Top 14. C'est Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Ah, ça me fait des vacances que j'ai pas de présentation.
Non, mais il est là, lui.
Que je fasse pas de présentation. Quel bonheur, quel bonheur. Enfin, un samedi heureux pour moi. Tu vois,
mais t'as quand même Denis Charvet à te coltiner tout le week-end. Qu'est-ce que tu préfères? Ah oui, est-ce que tu préfères les présentations ou Denis Charvet pendant deux soirées?
Ah, je sais pas. Je veux dire que le choix est cornélien. Mais sache quand même que Denis, en reportage, est un mec hyper efficace parce qu'il a déjà réservé le resto à midi. Et en plus, on va pas être au soleil, donc on va être au top.
Parfait. Bah, t'embrasses Denis Charvet et j'imagine que la fête avec vous doit être belle.
Qu'il est, il est efficace, il a déjà prévu tel et tel joueur à l'interview.
Ah, non, non,
non. Non, t'as fait. Il regardera la feuille de match vers 20h45, t'inquiète.
Prononcer les noms déjà.
Allez, on débute cette émission avec citation de Mark Twain qui a dit un jour, le tonnerre est impressionnant mais c'est l'éclair qui est important.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Ça part bien et c'est entre les poteaux, Festival Joris Second pour le moment qui permet à Bayonne de revenir à un point du Stade Toulousain. Attention, Mania qui revient à l'intérieur, qui remet à l'intérieur peut-être pour laisser l'essai du Stade Toulousain sur cette combinaison incroyable. La voilà, la première étincelle. Mais là, ça accélère côté Toulousain avec Jax Willis qui relève le ballon pour Ntama, qui relève lui-même pour Barassi, qui relève pour Ramos. Ramos, intérieur, il est magnifique cet essai intérieur pour Graou. Le deuxième essai Toulousain, la fulgurance, l'accélération.
Quelques têtes basses côté Bayonnais.
Ils n'ont pas les clés en plus. Il n'y a pas d'occasion de laisser.
Attention, Bayonnais qui repart.
Ils ont vu tomber les ballons. C'est incroyable. Que des fautes de main, mais que des fautes de main.
Une de plus, elle passe entre les perches. Ça fait 7 sur 7, 100% pour Thomas Ramos. C'est plus 11 maintenant, 29-18. Oh. Jouez là, les Bayonnais. Maxime Machepot, il la joue. Ah. Accroché. Il l'a donné.
Oui, il y va.
L'essai de l'aviron Bayonnais. Par où d'honneur de la part des Basques. Victoire du Stade Toulousain. 32-25. Sans vraiment convaincre. Toulouse, sauf une 31e finale dans l'histoire du championnat de France.
La hiérarchie a été respectée hier soir. Le Stade Toulousain s'est donc qualifié pour sa troisième finale consécutive de Top 14. Une victoire, vous l'avez entendu, 32-25 face à l'invité surprise du dernier carré Bayonne. Une victoire dans la douleur, mais l'essentiel était ailleurs. Les Toulousains seront au Stade de France samedi en 8, comme on dit, pour tenter d'aller remporter un triplé en championnat, le 24e bouclier de Brennus de leur histoire. Mais attention, les Rouges et Noirs semblent avoir moins de marge que les saisons précédentes. Eux qui se sont fait sortir par l'UBB, vous le savez, en demi-finale de Coupe d'Europe cette année. La musique qui fout les jetons est cette question. Le Stade Toulousain est-il toujours aussi impressionnant? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Olivier Giraud.
Non.
Pascal Duprat.
Oui.
Christophe Cessieux.
Non.
Julien Beneteau.
Oui.
J'ai trois oui, j'ai deux non. On va débattre dans quelques instants. On va retrouver également à Lyon notre commentateur, notre envoyé spécial, Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut Wilfried.
Alors comment étaient les Toulousains après cette demi-finale? Quel était leur sentiment?
Alors, on va préciser que les attentes sont toujours nombreuses hein, quand on parle du multititré Stade Toulousain, 23 boucliers au compteur après l'élimination en plus en Coupe d'Europe face à Bordeaux. Bah, les joueurs avaient été marqués, devaient se rassurer face à Bayonne, balayer les interrogations, ce qu'ils n'ont pas complètement réussi à faire selon le troisième ligne François Cross.
Ce qui est frustrant, c'est que c'est des fautes qui sont un peu grossières et qui sont évitables. Quoi. C'est surtout ça. Il y a deux, trois fautes qui sont clairement évitables. Et surtout avec un buteur de la qualité de Joris Second, c'est trois points à chaque fois. Donc, on tourne à 20-15 sans avoir été trop inquiété, mais en étant à 5 points, donc ça aurait pu être préjudiciable ce soir.
L'indiscipline du Stade Toulousain sur ce match, demi d'ouverture, Romain Tamac se dit heureux dans l'ensemble, mais en se projetant justement sur la finale, le demi d'ouverture va plus loin.
L'indiscipline, c'est un gros point noir ce soir. Si on a le même ratio de pénalité la semaine prochaine, c'est sûr que ça passera pas. Donc c'est vraiment un point qu'il va falloir régler.
Mais tous se disent tout de même soulagés qu'avec ce top 14, ce n'est pas si évident, même pour Toulouse, de disputer une nouvelle finale, la troisième de suite qui plus est. Alors pour le manager Hugo Mola, l'équipe revient surtout de loin entre blessures et effets extra-sportifs pour le club. Comme souvenez-vous, l'affaire du salary cap avec Jaminet. Et Mola ne retient qu'une chose, être en finale.
Mes admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer. Alors oui, on est meilleure attaque, oui, on est meilleure défense, oui, on a fait un rugby abouti, mais on a vécu une saison en enfer. En enfer en termes de blessures, hein, en enfer en termes de situations un peu complexes à gérer. Donc d'être en finale de cette saison-là, avec ce qui s'est passé pour plein de raisons, c'est la performance d'un groupe qui a pas lâché, qui est résilient, mais gagner moche, je m'en contenterai.
Et oui, et la semaine prochaine, le seul but toulousain sera d'aller chercher un 24e bouclier de bonus.
Merci beaucoup Wilfried Templier. Évidemment, on te retrouve ce soir au commentaire de cette deuxième demi-finale entre le RCT et l'UBB. Il est cash à chaque fois, Hugo Mola. On va en débattre. Le stade toulousain est-il toujours aussi impressionnant? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. On va commencer avec un oui. Pourquoi oui, Simon Dutin?
Parce qu'en phase finale, il faut gagner. Et gagner, c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'il faut. Toulouse a encore gagné. Je complète les chiffres donnés par Wilfried. Ça fera 4 finales de top 14 en 5 ans. Entre temps, ils ont gagné 2 Champions Cup. Je reviendrai un peu plus tard sur les stades de façon plus générale. Mais hier, qu'est-ce qu'on leur reproche de pas avoir gagné avec 50 points d'écart contre une équipe qui est la surprise du championnat, dont il faut se méfier. Tu sais, les trajectoires ascensionnelles, on les a vues, on l'a vu avec Montauban, tu vois, qui retrouve le top 14 alors qu'ils étaient sixième de la phase régulière. Quand t'es porté par une dynamique, comme c'était le cas de l'Aviron Bayonnais, tu n'as rien à perdre, a fortiori sur terrain neutre. Toulouse était privé, faut-il le rappeler, de Antoine Dupont, mais aussi de Capozzo.
C'est l'objet de notre question, est-ce qu'ils sont toujours aussi impressionnants?
Tu gagnes sans Capozzo, sans Dupont, sans Movaca, qui sont des joueurs importants. On rappelle que Ramos et Kinghorn, ils n'avaient pas joué depuis 2 mois. Ramos avait joué contre le Loup, mais bon, manquait un petit peu de rythme. Ramos, hier, il fait son habituel sans faute au pied. On me dit, ah, ils ont pas gagné à la Toulousaine, ils ont gagné moche. Moi, je trouve que l'essai d'Untamac, l'essai de Raoult, ils sont remarquables. C'est des essais à la Toulousaine. Et ouais, à côté de ça, chaque fois que Bayonne a pu revenir dans le match, alors oui, il y a eu de l'indiscipline. Ça peut arriver même aux plus grandes équipes. Et je crois que Bayonne revient à 4 points, à 10 minutes de la fin. Bon, Toulouse s'est pas affolé. Ils ont su plier le match. Et d'une façon plus générale, moi, il me fait marrer, Hugo Mola. Il dit, alors oui, on est la meilleure attaque. Oui, on est la meilleure défense. Ben oui, ils sont la meilleure attaque. 118 essais marqués cette saison. 11 bonus offensifs. Personne fait plus de passes que par match. Personne n'encaisse moins de points que par match. Personne n'autorise aussi peu de franchissements que eux par match. Donc Toulouse continue à gagner et Toulouse continue à gagner, à dominer, tout en opérant une régénération perpétuelle, tout en reconstruisant en permanence. Okay. Et c'est remarquable.
Ok, gloire à Toulouse. Christophe Sessieux, pas d'accord?
Pas du tout d'accord avec Simon, évidemment, c'est pas nouveau. Non, mais c'est marrant avec Simon, c'est qu'il donne les absences de Toulousains, de tous les Toulousains. Est-ce que tu as remarqué un peu cette équipe de Bayonne comment elle était handicapée hier soir? C'est-à-dire que toutes les stars du match précédent n'étaient pas là, ou toutes les stars qui ont fait justement que cette équipe est restée invincible à domicile pendant une saison. T'avais pas de Tulagi, t'avais pas de Chouznou, qui est quand même le roi dans les airs, le roi en touche. Tu n'avais pas, enfin, il y avait 4-5 absents, et quand tu vois l'effectif de Bayonne, qui est vraiment pas du tout du même niveau que celui de Toulouse, arriver à terminer à 7 points du stade toulousain, franchement, c'est un exploit qu'a réussi Bayonne. Donc, moi, je trouve que cette équipe toulousaine, évidemment qu'elle est là, évidemment qu'elle gagne, évidemment qu'elle est une nouvelle fois en finale, et on va pas lui enlever ça. Mais je trouve qu'elle est moins impressionnante que par le passé, moins impressionnante qu'avant cette défaite en demi-finale face à Bordeaux. J'ai l'impression que cette demi-finale tourne encore dans les esprits, et qu'elle a un peu instillé le doute au sein de cette équipe toulousaine, notamment ces fautes d'indiscipline hallucinantes. J'ai jamais vu le stade toulousain commettre autant de fautes. Un stade toulousain qui est moins tranchant. Alors certes, il y a eu ces deux essais magnifiques à la toulousaine, mais je trouve que je retrouve pas la belle mécanique, je retrouve pas les joueurs qui m'ont fait rêver l'année dernière. Où est passé le Méa Fou qui écrasait tout sur son passage l'année dernière? Où est passé le Jelonge d'avant sa blessure? Où est passé le Tamac, même s'il retrouve un peu de ses aptitudes? Ouais, où est passé le Julien Marchand? Il est plus challengé par Movaca, qui n'est pas là.
Comme tu dis, il a été blessé très longtemps, donc ça prend du temps.
Ben oui, non, mais d'accord, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas retrouvé, je trouve, ils n'ont pas retrouvé le niveau qu'ils avaient avant. Et je trouve que cette équipe est bien moins impressionnante qu'elle l'était l'année dernière en demi-finale et en finale. Rappelez-vous la volée qu'elle a mis à Bordeaux, rappelez-vous ce qu'elle a mis également, même si ça avait été plus difficile face au Stade Rochelet. Alors c'est une demi-finale, c'est le match le plus difficile à gagner. Maintenant, ils sont en finale. Mais s'ils commettent les mêmes fautes d'indiscipline que hier soir contre Toulon ou contre Bordeaux la semaine prochaine, eh ben, je suis pas sûr qu'ils ajoutent un nouveau bouclier à leur palmarès.
Ça veut réagir, Pascal et Julien. Je sens le camp du oui. Pascal, je t'entendais rire.
Ouais, en fait, Christophe, il me fera toujours rire. Voilà, toujours rire. Même quand il n'est pas sur le plateau, même quand il est sur la pointe des pieds dans l'émission, il arrive toujours à me faire, comment dire, sortir de mes gonds. Non, Toulouse est extrêmement impressionnant, comme il l'a toujours été. Oui, vous oubliez juste un point important. Donc Toulouse joue dans le top 14, le meilleur championnat du monde, et l'écart, même si Toulouse maintient son niveau, bah l'écart il se réduit parce que ses concurrents, à l'instar de Bayonne, t'en as parlé, mais aussi de l'UBB ou du RCT de Toulon qu'on va voir évoluer contre Bordeaux aujourd'hui, qui renaît de ses cendres, eh bien le top 14 c'est un grand championnat et Toulouse doit être toujours à son meilleur niveau. Vous savez où je les ai trouvés extrêmement bon, on n'en parle pas souvent parce que c'est le jeu d'évitement, c'est le jeu de passe, c'est un jeu enlevé, le jeu du stade toulousain, oui. C'est que Toulouse est toujours aussi costaud. Ils ont concassé les Bayonnais hier, c'était un match où ça a tapé hier, ça a tapé dur, ça a tapé fort. Alors oui, certes, il y a eu quelques indisciplines, il y a eu quelques pénalités concédées, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont costauds les Toulousains. Personne ne le dit parce qu'on veut les voir jouer, partir dans leurs envolées, dans leurs arabesques, mais pour que R. Ramos, Sentamac et consorts puissent être utilisés, s'exprimer, il faut que devant ça secoue. Et Toulouse, croyez-moi, hier, ça a encore une fois secoué. Grave. Ils sont grave impressionnants, les Toulousains. Désolé de vous le dire.
Ok, Olivier Giraud veut te répondre. En tout cas, si durant l'émission, évidemment, Pascal, il y a une ou deux cigales qui veut venir participer à nos débats, évidemment, tu n'hésites pas.
Vous voulez que je ferme les fenêtres, pardon?
Non,
putain.
Pas du tout. Je sens que dans le sud, eh bien, on est avec toi. Donc non, je trouve ça très bien. C'est du Marcel Pagnol là, en ce moment dans l'émission, dans les grandes gueules du sport. Olivier Giraud.
J'ai l'impression qu'on a vu un autre match impressionnant. Fort, oui, ils sont forts. Ils sont très forts, quelle que soit la situation, qu'ils jouent bien, qu'ils jouent pas mal. Ils sont résilients. Alors ça, on découvre un truc, c'est que même quand ils jouent mal, ils arrivent à avoir le petit truc en plus qu'ils jouent un petit peu mieux que toi. Et puis surtout, les gars, moi, je vais pas aller contre le coach. C'est-à-dire que ce que attend Hugo Mola pour être impressionnant, c'est pas ce qu'il a vu hier. C'est pas
Olivier
ce qu'il a dit hier.
Donc
non, tu vas pas aller contre le coach. T'as été coach.
Non, mais il prépare sa finale.
Il en est très content, mais il est pas très content que de ce match. Il est très content comment son équipe a réagi, quelles que soient les situations, cette saison. Donc, vous utilisez un terme qui est, le terme quand ils sont impressionnants, c'est qu'ils dominent tout de la tête et des épaules. C'est pas le cas aujourd'hui. Je veux dire qu'à la 64e, un Bayonne complètement diminué, s'ils ne tentent pas une fois de plus leur pénal touche qui rate à chaque fois les Bayonnais, ils ont vraiment du mal avec cette pénal touche, ils se retrouvent, soit ils la convertissent, ils se retrouvent à égalité, soit ils tentent la pénalité, ils se retrouvent toujours à 5 points et toujours à portée de fusil de pouvoir aller gagner ce match, parce que Bayonne a laissé passer aussi énormément d'occasions hier. Énormément d'occasions. Donc, de là, ouais, te dire que Toulouse a été impressionnant hier, les gars. Non, les gars. Ils vont bien jouer, vous allez dire quoi?
Mais ça dépend ce que tu mets dans impressionnant. Tu peux être impressionné par la qualité de jeu, tu peux être impressionné par le fait qu'il soit pour la troisième fois de suite en finale. Tu peux être impressionné par le fait que, quand JC dit, en préambule, est-ce qu'ils ont toujours de la marge? Mais en fait, il y a deux ans, ils avaient zéro marge. Il faut se souvenir que quand ils battent La Rochelle en finale du championnat de France, du top 14, c'est à la dernière minute.
Ils avaient perdu.
Un exploit d'Antamac jumelé à une fève en défense du centre Rochelet. Comment?
L'année dernière, ils ont fait quoi?
L'année dernière, ils ont fait un match exceptionnel et avec un UBB
ils
où on connaît
exceptionnel. L'année dernière, ils ont été exceptionnels.
Non,
ils sont
en finale, ils ont été exceptionnels
cette saison.
Ils sont moins exceptionnels. Ils ont été exceptionnels jusqu'à cette demi-finale de Champions Cup. Mais OK, ouais, ils l'ont perdu.
Exactement.
OK, c'est pas le stade toulousain de certains matchs de saison régulière où tout est huilé. Mais pourquoi? Ça fait 15 jours qu'ils ont pas joué et ça fait combien de semaines qu'ils n'ont pas un match avec enjeu? Ça fait un mois et demi qu'ils sont qualifiés pour les phases finales, ça fait un mois et demi où ils sont sûrs pratiquement de terminer premier et de s'éviter le barrage. Ils n'ont jamais leur équipe type, comme le dit Hugo Mola, parce qu'ils n'ont eu que des blessés, etc. Donc moi, c'est là où je trouve qu'ils sont impressionnants,
d'être toujours là, d'être présent en phase finale, de gagner moche, de gagner beau. En phase finale, on n'est pas là pour marquer 8 essais pour le bonus offensif. Oui. On est là pour gagner. Et ils sont toujours là, toujours, toujours là. Et ça, c'est impressionnant.
Malgré les vents contraires, ils sont toujours là. Justement, Hugo Mola a parlé de gagner moche. On en parle dans quelques instants dans les grandes gueules du sport. On poursuit la discussion. Supporters toulousains, vous êtes les bienvenus. Vous composez le 32-16 et vous venez débattre avec nous dans quelques instants, avec les GG, avec les cigales de Pascal. On revient dans quelques instants dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h31 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Simon Dutin, Julien Beneteau, Olivier Giraud, Pascal Duprat et Christophe Cessieux. Toujours avec nous encore quelques minutes en direct de Lyon pour les demi-finales du top 14. On continue de parler de la victoire du Stade Toulousain hier soir. Sachez qu'à partir de 10h, on parlera du cas Melvin Jaminet. Est-ce qu'il peut revenir en bleu, lui qui avait été suspendu après des propos racistes? On se posera la question parce qu'il y a eu des nouveautés cette semaine. On va vous raconter tout ça. Le Stade Toulousain est-il toujours aussi impressionnant? Je sais que vous voulez continuer de débattre, les amis. Il y a Stéphane qui nous appelle au 32-16. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour,
supporter du Stade Toulousain ou pas?
Oui, en partie, et puis du rugby.
Bon, est-ce que je te pose la question? Parce que j'imagine que pour toi c'est oui, ils sont toujours aussi impressionnants ou pas?
Oui, bien sûr, ils ont montré comment Toulouse gagne une demi-finale pour aller en finale. Ils ont remis des bases. Combien de temps ils ont mis Bayonne a mis 60 minutes pour rentrer dans les 22. Donc ils ont fait des fautes, oui, à 45 mètres. Mais je pense qu'ils se sont remis la tête un peu à l'endroit par rapport au dernier match. Et je pense que la semaine prochaine, ils seront encore mieux. Voilà, c'est Toulouse, c'est gagner des demi, c'est gagner des finales. Grâce à Rameau, ça fait 100%. Ils ont mis deux pics. Bon, ben voilà, ils ont respecté Bayonne. Bayonne a été courageux, a tenu le choc. Mais bon, Toulouse, ça faisait 15 jours, 3 semaines, ils n'avaient pas joué. Ils avaient pris 50 points à Perpignan. C'était pas normal. Ils ont pris un essai à la 83e. Voilà, c'est Toulouse.
C'est Toulouse, c'est normal, c'est du classique. Je m'adresse aux sportifs, là. Gagner moche comme ça, comment on ressort d'un match? Comment on ressort d'une demi-finale, même si on a mal joué? Est-ce qu'on est content parce qu'on se dit, non, mais c'est une demi-finale. Donc, nous, le principal, c'était de gagner, Olivier.
Ah ouais, quand t'es joueur, l'important, c'est de gagner. Et puis, en face, t'as des adversaires qui te contestent la victoire. Et des fois, c'est dur. C'est dur au moment où tu t'y attends pas. Et gagner, c'est l'important, ouais.
Ça dépend aussi comment tu entre guillemets analyses cette victoire. Là, Emola et Ntamack à chaud tout de suite, ils sont à la fois contents d'être en finale, mais tout de suite ils disent OK, on a été indisciplinés, on a donné si on fait ça la semaine prochaine, on sait que ça passera pas. Mola, il a dit il y a eu trop de fautes de la part de joueurs cadres. Donc voilà. Et Ntamack, je pense qu'il avait même pas entendu son entraîneur parler de ça. Et Ntamack tout de suite très lucide en disant on a été trop indisciplinés, c'est le point noir de la soirée, il faut qu'on gomme ça. Donc, en fait, les mecs, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont qualifiés, mais ils sont pas du tout démobilisés, ils sont déjà dans la finale,
très bien,
ils savent déjà.
Ils sont déjà tournés vers la finale.
Et ils savent déjà ce sur quoi
ils vont devoir travailler. Oui, mais est-ce que ça laisse une part de doute? C'est-à-dire que quand on écrase une demi-finale, on arrive en pleine confiance. Est-ce que là, en plus, si c'est face à l'UBB, le bourreau de la Coupe d'Europe, est-ce que là, il y a une part de doute dans l'esprit?
Quand tu fais un grand match avant la finale, parfois, t'as tout donné et nous, la France, on est bien placé pour savoir, notamment en rugby en 99 ou quand on bat les Blacks, en finale, on n'a plus rien. En 2007, on bat les Blacks en quart, on n'a plus rien en demi. Au foot, en 86, quand ils ont battu le Brésil, Platini a été le premier à dire, on avait gagné, on avait joué notre finale avant l'heure. Donc, c'est pas forcément si tu marches sur l'eau en demi, ça veut pas dire que la semaine d'après tu vas marcher sur l'eau.
Et moi je rejoins tout à fait Julien, parce que tu dis l'UBB bourreau de la demi de Champions Cup, c'est aussi la victime expiatoire. Ils les ont piétinés l'an dernier en finale du top 14, donc tu peux aussi, ils sont pas encore déjà qualifiés. Mais en effet, je suis pas convaincu qu'Hugo Mola il préfère pas le scénario d'hier plutôt qu'une victoire, je le disais, par 50 points d'écart, parce que ça lui donne des leviers pour garder son groupe sous pression, pour leur dire les gars, c'est pas suffisant, si vous faites la même chose en finale, quel que soit l'adversaire, vous allez perdre. Et donc ils sont évidemment déjà tournés vers cette finale, l'essentiel c'était de gagner. Et je pense que les joueurs dans le vestiaire vont être beaucoup plus réceptifs aux remarques, aux directives toute la semaine, parce que en effet, il y a eu cette indiscipline et il y a de la place pour,
okay,
pour améliorer.
Donc c'est bon de faire ça dans une demi-finale. J'arrive, Pascal.
Parce que moi, j'y sais, 10 fois, j'avais marché sur l'eau en demi, et en finale, j'ai pas marché sur l'eau.
C'est vrai que, on va pas rappeler les stats donc, en finale, mais c'est vrai que, là, tu as beaucoup d'autodérision, et ça t'honore.
C'était pas d'une semaine à une semaine, hein, c'était de la veille au lendemain.
Oui, mais est-ce que tu gagnais moche en demi-finale?
Je me gagnais moche, gagnais beau, j'ai tout fait en demi.
Ouais. Et en finale, après, bon, c'était
j'ai
plus compliqué.
Tout fait aussi,
vas-y, Pascal, et après Christophe, pour ses impressions du terrain, évidemment.
Très franchement, je pense qu'hier, ils ont pas gagné moche. Ils ont gagné contre une équipe qui a fini quatrième du championnat et une équipe de dur à cuire avec un rugby bien huilé. Et comme l'a très bien dit l'auditeur, très vite on a vu que Toulouse était supérieur. Et Toulouse, encore une fois, je répète, a concassé son adversaire. Je pense que Toulouse a fait ce qu'il voulait faire en respectant Bayonne. Et ça, c'est le plus important. Et tout le monde est sur l'espoir, sauf moi, parce que je voudrais que le RCT soit en finale. Mais tout le monde est dans l'espoir de voir une revanche quelque part ou une finale. Puisque l'année dernière, ils ont défoncé l'UBB. L'UBB les a battus en Europe et tout le monde voudrait voir cette finale. Cependant, je suis certain qu'Hugo Mola, que comme les joueurs de Toulouse, ils savent qu'ils ne referont pas le match de l'année dernière s'ils devaient jouer contre Bordeaux. La finale serait beaucoup plus disputée cette saison-là. Et ça n'enlève rien au fait que les Toulousains soient toujours aussi impressionnants.
Christophe, vu du stade, toi qui as l'habitude de voir ces matchs du stade toulousain, les matchs qui comptent, les demi-finales, les finales, est-ce que tu sens quelque chose où tu te dis « c'est bizarre, vraiment, ils sont très prenables » alors qu'avant, tu n'avais pas cette sensation?
Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, oui, j'ai l'impression que cette année, moi, je les trouve moins impressionnants. Après, c'est le match le plus dur à gagner, c'est la demi-finale. C'est vrai que tu reviens, tu n'as pas de rythme, d'autant que cette année, comme ils ont été sortis, ils n'ont pas été disputés la finale de la Champions Cup, il leur a manqué ce match de grosse intensité. Donc, ils sont arrivés là, avec un peu de doute dans les esprits. Je pense que ce sera un autre Stade Toulousain, effectivement, en finale, parce que ils savent se préparer, et je pense que la copie imparfaite qu'ils ont rendu hier soir va permettre justement à Hugo Mola de les remettre en jeu. Mais cette équipe, je suis désolé, mais sans Antoine Dupont, c'est pas tout à fait la même équipe.
Ah bah, plus, hein. Et c'est normal.
C'est quand même le maître à jouer. C'est la référence, c'est le symbole de ce Stade Toulousain. Et sans lui, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Voilà. Et il reviendra. Et je pense que
oui, il manque juste le meilleur joueur du monde. Ça peut aider dans une équipe de rugby.
Ça va, dans quelques ans.
Je disais, il manque simplement le meilleur joueur du monde, même si on souligne toujours que c'est le collectif avant tout. Ça peut aider l'équipe de rugby.
Ouais, c'est pas anodin, mais je pensais franchement, lorsque Antoine s'est blessé, je pensais que Toulouse arriverait à surpasser cette absence, et on en parlait avec Denis ces derniers jours, mais j'ai l'impression que ça redevient pas une équipe banale, mais une équipe moins impressionnante et moins dominante par rapport aux autres que sans Antoine Dupont. Donc il sera pas là la semaine prochaine. Ramos a pris le relais. Ramos reste un joueur exceptionnel, je suis d'accord avec vous. Mais les autres n'ont pas tout à fait le même niveau. Et donc j'ai hâte de voir la finale, que ce soit face à Toulon pour une revanche des années 80 ou que ce soit face à Bordeaux pour la revanche de la Champions Cup et la revanche de la dernière finale. De toute façon, ce sera une finale superbe. Attention quand même, parce que il fait très très chaud et il va faire très chaud encore une fois ce soir. Et avec une journée de récupération en moins pour les Toulonnais ou pour les Bordelais, je pense que ça va compter et il faudra mettre ça dans la balance.
Pascal voulait répondre après.
Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Christophe et qui est à mon sens très juste. On mesure pas l'impact qu'a eu la défaite en Champions Cup pour les Toulousains. Ils ont tout simplement du mal à s'en remettre, parce que avant la finale de Champions Cup, je suis certain que tous les Toulousains pensaient qu'ils allaient encore une fois faire le doublé. Et ça les a cassés. Et il faut simplement qu'ils s'en remettent. Et c'est pour ça que on a l'impression qu'ils sont un tout petit peu moins impressionnants. Mais c'est faux. Il faut simplement naturellement qu'ils se remettent d'une défaite, parce que ce sont de grands champions et que ces défaites-là, elles les impactent fort logiquement.
Olivier.
Alors Yannick Bru doit vous écouter et doit nous écouter attentivement. S'il aime à nous écouter, il a quand même une demi-finale à jouer. Hein. Il y a une demi-finale à jouer. Mais s'il y a une équipe qui peut faire une saison impressionnante, c'est la sienne.
Ouais.
C'est pas les Toulousains, les amis. Ça, l'année exceptionnelle, le grand chelem, là, le chelem, c'est l'UBB qui peut le faire. Et l'UBB, collectivement, je les trouve impressionnants.
Oui, je
les trouve impressionnants.
Là, tu me restes convaincu, mais moi je reste persuadé que
les Toulousains cette année. Même si les Toulousains, comme je t'ai dit, je les trouve forts, oui. Je les trouve résilient, oui, c'est une nouvelle manière de jouer avec une équipe différente.
C'est impressionnant.
Mais impressionnant, c'était l'année dernière.
Ça, on en reparle, Olivier, on en reparle après la finale. Tu
penses voilà. Là, je te dis maintenant, tout de suite, là, moi, je peux dire que c'est du bébé qui est impressionnant.
Parce que remporter le top 14, ça reste évidemment plus compliqué que remporter le top 14.
Mais il n'a pas gagné pour l'instant.
Olivier, je crois qu'il y a Pierre Mignoni qui nous écoute. Il n'est pas très content de ce que tu dis. Il y a Pierre Mignoni qui va jouer aussi avec son équipe. Ils sont furax.
Je voulais revenir sur ce que disait Pascal sur la difficulté peut-être pour le Stade Toulousain de se remettre de cette demi-finale européenne. C'est encore plus vrai justement parce que derrière, en général, pour se remettre d'une désillusion sportive, on se raccroche à ce qui reste dans le calendrier sportif au match d'après. En fait, eux, les matchs d'après, il y avait plus d'enjeux pour Toulouse. Ils étaient en roue libre sur la fin de saison régulière et ils avaient coché la demi-finale du top 14. Donc et là, ils ont répondu présent et ils ont eu beaucoup de semaines pour, entre guillemets, à la fois préparer ça, mais en même temps, ils n'avaient pas l'enjeu et l'adrénaline liée au résultat qui était absent ces dernières semaines pendant leur match. Donc, c'est en ça peut-être que c'est un peu moins huilé, mais ça reste impressionnant dans le résultat.
Bon, sachez les amis qu'on parlera demain à partir de 9h de cette deuxième demi-finale ce soir du top 14 entre Toulon et l'UBB. Et forcément, Christophe Cessieux viendra aussi débattre avec nous. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous ce matin. Christophe, comment va se passer ta journée à Lyon là ? Raconte-nous, fais-nous envie.
Ah bah écoute, je vais déjà déjeuner avec Denis. Mes amis Wilfried, Nicolas, Denis évidemment qui a réservé le resto. Donc on va s'occuper pendant le reste de la journée. Ensuite, on fera une petite sieste quand même réparatrice avant d'attaquer évidemment ce soir le direct à partir de 20h. Il faut être en pleine forme évidemment, plein bavin pour
partir de 20h. Il faut partir à 18h pour être à l'heure au stade là-bas, non ? L'accès est compliqué à Lyon aussi.
Oui. Bon, on va y aller un peu tard parce que comme il fait très chaud, on préfère rester de
merci. Merci pour ce point trafic et ce point météo. C'est très intéressant dans les grandes gueules du sport. L'after live évidemment autour de Christophe Cessieux, c'est à partir de 20h ce soir. Bonne journée, mon cher Christophe, et on te retrouve ce soir évidemment sur RMC. Et merci d'avoir été avec nous ce matin, 9h42. On se retrouve dans quelques instants. On s'en fout pas. J'ai des informations à vous donner, notamment un scénario assez hallucinant en judo. Oui, en judo, ça peut arriver, les amis, lors des mondiaux. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h45, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Julien Beneteau, Olivier Giraud, Simon Dutin. À partir de 10h, le bras de fer des GG autour de Melvin Jaminet. Est-ce qu'il peut retrouver l'équipe de France ? Est-ce qu'il mérite une seconde chance en bleu ? On se posera la question, c'est le bras de fer des GG. On s'en fout pas dans quelques instants, mais vous le savez, à 10h45, vous prenez les commandes de cette émission, mes GG. Vous nous proposez un débat, les GG contre-attaque. Oui, il faut contre-attaquer. Il faut. C'est une émission de bruitage aussi. Il faut nous donner du pain à moudre, comme dirait Laurent Blanc. Ok, un bon débat, un bon sujet. Simon Dutin.
Moi, je vais ressortir le traditionnel débat de début d'été. Est-ce que il faut maintenir ces tournées d'été ? On reste dans le rugby, la tournée d'été du 15 de France, parce qu'on le rappelle. On profite souvent de ces occasions face à des équipes mythiques et prestigieuses pour reposer, et je le regrette, les stars du 15 de France, les hommes de base de notre équipe nationale. Alors certes, ça permet à certains de se révéler, mais on aimerait voir nos meilleurs joueurs face aux meilleurs joueurs de l'hémisphère.
Ok.
C'est comme la canicule chaque année, ça revient chaque année.
Exactement.
C'est
ce qu'on appelle un marronnier dans notre jargon. Il y en a plusieurs des marronniers en sport. On pourrait faire la liste. Est-ce qu'un Français va gagner le Tour de France ? Est-ce qu'un Français va gagner Roland-Garros ? Les marronniers. Oui, Julien, ça te plaît pas, ça, cette petite phrase. Vas-y.
Un Français va chanter la Marseillaise.
En équipe de France, t'as mis de foot, évidemment. Bonjour, le foot qui est ciblé. Nommé Français. Bon, bref. Tu proposes quoi, toi, Julien ?
Alors, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Novak Djokovic il y a quelques jours par rapport à sa motivation pour les Jeux Olympiques, par rapport au Grand Chelem. Que pour lui, il disait que les Jeux Olympiques représentaient tout et plus qu'un Grand Chelem, ce qui est très rare chez un tennisman.
Ah oui. C'est donc, même inédit, oui.
Et il disait ça dans l'optique de Los Angeles 2028. Alors moi, est-ce que vous pensez qu'il bluffe ? Mais pour moi, il peut bluffer de deux manières. D'abord, est-ce qu'il le pense vraiment ? Que les JO est plus important que les Grands Chelems ? Et puis quand il parle de Los Angeles 2028, est-ce qu'il bluffe pas ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il sera à Los Angeles et compétitif là-bas
pour à plus de 40 ans, le double bluff. Exactement. De Novak Djokovic, c'est ta proposition, mon cher
Julien. C'est la victoire.
Olivier, tu proposes quoi ?
Bah écoute, il y a le mondial des clubs là actuellement de l'autre côté de l'Atlantique qui est
quoi? Rapidement, allez, on accélère.
Donc,
le mondial des clubs.
Très critiqué par beaucoup de monde. Eh ben, il va se passer un truc, c'est qu'on peut se poser la question, c'est si ce mondial des clubs avait lieu ici, à Paris. Est-ce que ça serait pas blindé? Est-ce que il y aurait pas un fort intérêt de voir toutes ces équipes sud-américaines venir jouer ici? Et on va parler un petit peu de manière détournée que, bah, finalement, cette Super League, elle est déjà arrivée.
Ok, très bien. Pascal Duprat.
Bon, moi, je vais pas parler de manière détournée comme Olivier. Je vais la faire cash. Je veux parler d'un Français, Quartararo. Hier, j'ai vu un truc invraisemblable. Il tombe, il se casse la gueule, il se fait mal à l'épaule. On suspecte une blessure. Quelques minutes plus tard, il remonte sur la moto. Donc, c'était à l'occasion des Q2. Et il fait le cinquième temps. Donc, moi, la question, c'est que Quartararo, il va gagner très prochainement un Grand Prix de moto. Qu'en pensez-vous? Je pense que oui, moi.
Ok. Quartararo, c'est le menu proposé par le chef Pascal Duprat.
C'est léger.
Sachez que vous pouvez aller voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. On critique pas les débats des petits camarades, les amis. Léger, ok.
Non, chacun dans son couloir. Cessieux, déjà.
Vous allez voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Tout de suite, on s'en fout pas.
Non, je suis ton père.
Le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Eh bien, bonjour papa. Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le scénario cruel pour l'équipe de France de judo. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je laisse la main.
Ah, il s'en fout. Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Olivier Giraud.
Je m'en fous.
Non.
Ah, tu flippes là.
Julien Benneteau.
Ah, il y a des faits, je vais pas le sauver, je m'en fous complet.
C'est pas possible, arrive, les amis.
Allez, alors ensuite.
Non.
Allez, on s'en fout.
Ah, s'y attendait pas, c'est nous.
Tu t'attendais vraiment pas. C'était un complot, je le sens. Il y a Morgane Maury qui nous attend, alors je peux pas m'en foutre. Et je vais quand même traiter cette information, même si je casse les règles de ce jeu, mais parce que pour moi, ça m'intéresse, donc je vais quand même vous le dire. Je suis à rigueur quand même le boss de l'émission. Alors pour la dernière journée des mondiaux de judo à Budapest, vous pouvez vous enlever les casques quand je parle aux auditeurs. L'équipe de France voulait frapper fort. Malheureusement, les Bleus terminent 7e, battus en repêchage par le Brésil. Mais le mal était fait avant, en quart de finale. La France est inclinée par forfait au Golden Score. Pour toutes les explications, on va donc retrouver notre envoyé spécial Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Scénario rare et cruel face à la Corée du Sud.
Vous vous souvenez de la roue qui s'arrête sur les plus de 90 kilos lors de la finale de l'épreuve par équipe mixte aux Jeux Olympiques? Eh bien, ce jour-là, la roue a sorti Teddy Riner. Hier, la roue s'est aussi arrêtée sur les plus de 90 kilos pour le match en or face à la Corée du Sud. Problème, Angèle Gustan, le poids lourd français, était blessé, touché au cervical lors de son affrontement avec le poids lourd coréen. Dès que la roue s'est figée sur les plus de 90 kilos, les Coréens ont levé les bras, ils ont compris. Pas de français sur le tatami, c'était la qualif sans stress pour les demi-finales. Rembobinon, Angèle Gustan, champion de France 2024, rencontre Lee Seung-yeob. La tête du tricolore tape le tatami, il est KO, son adversaire l'immobilise. À ce moment-là, il y a 2-1. Pour la Corée. Gustan est évacué vers l'hôpital. Les Français arrachent le 3-3, synonyme de tirage au sort. Gustan est forfait et interdiction de prendre un combattant d'une autre catégorie ou un remplaçant sorti des tribunes. La réaction de Johan Benjamin Gaba, très philosophe.
C'est très dur. Malheureusement, Angelis se fait mal sur le combat, donc il ne peut pas recombattre. Du coup, victoire directement pour l'adversaire. Et après, bon, ça, on peut pas s'en plaindre. De la roulette, ça nous a servi au jeu. On a été sur la place à la roulette aussi. Donc, ça peut pas aller toujours dans le même sens.
C'est la première fois depuis l'instauration du par équipe mixte en championnat du monde en 2017 que la France ne monte pas sur le podium.
Merci beaucoup Morgane Maury pour ces précisions. Malheureusement, tout le monde s'en fout, donc on peut pas débattre. Alors je trouvais qu'il y avait un super débat.
La règle
à faire.
Est grotesque tout de même.
Non, réagis pas.
Tu respectes pas les règles, mais nous.
C'est comme ça. C'est la dictature.
Allez, vas-y Kim.
Voilà, moi je suis bien d'accord que c'est grotesque. Je trouve ça, mais c'est pour aussi éviter la triche et pour éviter que les combattants les. Bon bref, je vais pas faire le débat. Tout le monde s'en fout. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Je suis énervé là. Un crunch en amical aujourd'hui France Angleterre. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Ok, on a le droit de s'en foutre maintenant, les copains. Hein. Vous, soyez pas timides. Hein. Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Ok. Julien Benneteau.
Non, je m'en fous.
Voilà. Merci Julien. Olivier Giraud.
Moi je laisse aussi.
Ok. Alors avant leur départ pour la tournée d'été en Nouvelle-Zélande, les Bleus affrontent aujourd'hui l'Angleterre à Twickenham. C'est vrai que c'est une information qui passe un peu inaperçue. Un match amical sans les cadres du 15 de France. Julien Landry est sauvé. Il va pouvoir nous en parler aujourd'hui, notre envoyé spécial à Londres. Salut Julien.
Et j'étais prêt à partir. Hein. J'étais prêt à partir.
je sais. On est heureux de te retrouver tout de même. Quel est le réel objectif des Bleus cet après-midi face au 15 de la Rose?
Déjà, j'y sais, un match en Angleterre, c'est jamais un match amical, hein, encore moins un match anodin, surtout dans l'antre de Twickenham. Et même si ce match ne comptera pas une sélection, c'est tout sauf un match amical. On sait que les tournées sont souvent propices à l'éclosion des fameux ovnis chers à Fabien Galthié. On se souvient notamment de Melvin Jaminet. En Australie, cet après-midi, ils seront 5 novices sur le pré anglais. Erdosio, Duguid, Fischer, Dougivalou et Moustin. Et Maël Moustin, l'ailier du MHR, a tout pour être le phénomène de cette tournée. Fabien Galthié le suit depuis quelques mois déjà. Et ce match sans les demi-finalistes est une bonne occasion pour le voir au haut niveau. Et pour le sélectionneur, ce match est aussi l'occasion de donner une chance à des joueurs à fort potentiel.
Qui va nous permettre, nous, déjà de commencer à lancer notre tournée en France et de donner une chance, une opportunité à des joueurs qui sont déjà éliminés de la compétition, qui est le top 14. Donc c'est une opportunité pour nous de travailler avec les meilleurs joueurs disponibles.
Une nouvelle liste sera communiquée demain avec les vaincus de ce week-end. 5 finalistes les rejoindront et ils prendront la direction de la Nouvelle-Zélande mardi pour un voyage long de 24 heures avant d'affronter pour la première fois les All Blacks le 5 juillet prochain à Dunedin.
Merci beaucoup Julien. Évidemment, on suit ce match avec toi cet après-midi sur RMC. Qu'est-ce qu'il y a Julien?
Je voulais savoir...
Ça
fait le plein à Twickenham ce match
Julien?
Je suis alors c'est aussi une équipe anglaise remaniée, ouais. Mais Twickenham sera pas loin de faire le plein. C'est Angleterre 15 parce que les Lions britanniques ont démarré aussi leur tournée. Ouais. Donc c'est deux équipes un peu mixtes, mais oui, il y aura du monde évidemment à Twickenham cet après-midi.
Si tu pouvais dire l'Allianz Stadium désormais.
Oui, mais j'aime pas dire ça, Simon.
Mais je sais bien, Julien.
C'est trop difficile.
Jamais on dira l'Allianz Stadium. Ça t'intéresse vraiment?
Oui, ça m'intéresse, d'autant plus que je remplace Tonton Cessieux.
Oui, ouais, je pas personnellement pour ton calendrier, pour ton boulot. Mais
donc, ce sera à l'antenne sur RMC. Donc, évidemment que je m'y suis intéressé. Oui, parce qu'un Angleterre-France, même si tu envoies les juniors, c'est toujours... on a toujours envie d'aller les battre chez eux. On est passé à un point la dernière fois avec la grosse équipe. Bon, on va évidemment s'enthousiasmer dès qu'on entendra les hymnes et qu'on entendra les swing low dans les tribunes. On a toujours envie de les battre. Donc oui, on s'intéresse.
Merci beaucoup, Julien. C'est à 16h15 à suivre sur RMC. On a un auditeur, fidèle auditeur, qui veut participer c'est assez rare, hein, on s'en fout, on s'en fout pas. Bonjour, auditeur.
Bonjour, messieurs. Je suis,
tiens.
Affligé. Je suis fâché.
Ah, je crois reconnaître David Douillet. Vas-y, David.
C'est quoi ce cirque, les gars, là? On s'en fout. Dès que je suis pas dans l'émission, dès que c'est pas un sujet qui est sur Teddy, voilà, il n'y a plus personne. Non, mais c'est quoi ce cirque, là?
David, c'est quoi? Alors, tu sais quoi? C'est pas parce que t'es costaud. Je suis totalement d'accord avec toi, mon cher David.
Non, mais c'est scandaleux.
Justement.
Si tu prévois le journaliste, il y a un vrai sujet sur le règlement, sur l'esprit du sport et l'esprit de la compétition, et il n'y a personne pour défendre ça.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, David. Je sais qu'il fallait que ce soit un vrai sujet dans l'émission et pas un zapping. Il n'a pas voulu. Voilà. David, justement. Alors, si on entre dans le fond, moi, ça m'intéresse parce que je trouve qu'au niveau de l'équité sportive, ce règlement est, c'est du grand n'importe quoi. Tu en penses quoi?
Oui, non, mais bien sûr que c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, c'est des vrais sujets de discussion qui ont lieu, alors sur d'autres points techniques de l'évolution de l'arbitrage du judo. On a ces discussions depuis les Jeux, où je m'étais penché auprès du président de la Fédération internationale, Marius Wieser, et il me demandait mon avis sur globalement le judo, la qualité du judo mondial. Je lui dis, écoute, Marius. Il y a des combats, je ne sais pas pourquoi les gens perdent et je ne sais pas pourquoi les gens gagnent, c'est quand même grave. Il y a des points de règlement qui sont tellement fins et tellement mal interprétés que ça en devient n'importe quoi. Et là, à l'époque, il m'avait dit, tu as raison, on va revoir ça parce que ça va trop loin. Voilà, il y a trop de détails qui font que les arbitres se trompent, etc. Mais là, on est sur un point plus global où l'esprit du combat et de la compétition sont complètement annihilés. C'est complètement absurde. Donc, en fait, le judo, c'est une matière qui vit, qui évolue, qui continue à se construire, qui a besoin d'être attractive, télégéniquement parlant. C'est pas simple. Donc voilà, c'est
vrai, mais là pour le coup, David, je trouve qu'ils se sont tirés une balle dans le pied parce que ce golden score donne vie et sens à ce match par équipe. Et quand tu peux pas envoyer ton combattant parce qu'il est blessé, s'il est blessé, pour moi, t'envoies quelqu'un de la catégorie d'en dessous. Alors oui, on aura moins de chance. Moins de chance, mais au moins tu peux y aller.
Ou tu fais tourner la roulette à nouveau. Tu pars sur une autre catégorie.
Sans cette catégorie,
ou,
voilà.
Ou tu élimines la catégorie dans laquelle.
Voilà. Bien sûr, mais
tu mets une boule plus lourde.
Non, mais le problème, et on arrêtera là sur ce débat. Le problème, c'est que si tu fais ça, eh bien, tu peux simuler une blessure pour tes équipiers, les moins forts. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'ils ne seront pas au golden score.
On n'est pas au foot.
D'accord.
Non, c'est vrai. On se serre la main d'ailleurs au judo entre combattants.
Là. Mais d'ailleurs,
Attends. Je suis étonné de cette réflexion. Il y a un cas depuis des dizaines d'années où il n'y a jamais rien qui se passe et on en fait tout un tatamar. Voilà. On a une tête de cochon, c'est le géorgien, qui fait son caca nerveux tout le temps. C'est un caractère. Bah voilà, il y a du caractère aussi chez les athlètes de l'eau, c'est pas à vous de l'apprendre. Non, mais moi je suis déçu par contre. Là, globalement, je suis déçu par vous tous et je vous. On en reparlera.
Moi aussi.
Tête à tête, par un. On verra ça plus
tard. On va réduire les piges. Merci mon David d'avoir été avec nous et d'avoir rétabli cette vérité importante. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. À tout de suite. Merci David.
RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules du Sport.